Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est une demi-heure pour parler cinéma. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de jouer un blind test. C'est un peu la formule de cette émission, quand on en a l'occasion en tout cas. Et ce blind test aujourd'hui, eh bien, sera autour de la filmographie de Vincent Cassel. Alors pourquoi Vincent Cassel? Tu as la réponse, Guillaume.
Bonjour, tout simplement parce qu'il fait partie des fameux, c'est le troisième ou deuxième des trois mousquetaires dont je vais vous parler aujourd'hui.
Et oui, car c'est une nouvelle adaptation donc, de D'Artagnan. Et tu as un deuxième film aussi.
C'est ça, après le pilier français, un pilier japon-nippon-russe, on peut dire, c'est un film qui va retracer l'adaptation du jeu vidéo Tetris.
Moi, je vous parlerai de Bonne Conduite, la dernière comédie du Palma Show, mais nous débutons avec Normal, film d'Olivier Babinet, avec Benoît Poulvorde, un père malade et une fille qui enrobe la réalité.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches dans un tapis?
Papa, t'as pas appelé EDF?
Non, j'ai appelé, je t'assure. Et ils répondent jamais, ces gros rats.
Lucie! J'ai appelé le service d'aide à l'enfance. Il y a une assistante sociale qui va venir vous faire une petite visite.
Une petite visite?
Oui. Juste pour voir comment ça se passe.
Adapté de la pièce de théâtre britannique Monster in the Hall de David Craig, Normal déjoue habilement les pièges d'une transposition à l'écran d'un succès sur les planches, s'affichant comme un pur film de cinéma aussi attachant que singulier. Les scénaristes Juliette Salles et Fabien Suarez ont situé le récit au nord de Paris, en Seine-et-Marne, à Chelles, inscrivant le récit dans une atmosphère ouatée entre réalisme et fantasmagorie. Alors on y fait la connaissance de Lucie, 15 ans, adolescente débordant d'imagination, qui dès le prologue invente un monstrueux bobard pour justifier son retard coutumier. Alors par son sens du romanesque et un pouvoir de conviction quasi littéraire, elle parvient à faire croire tout et n'importe quoi à son environnement, sans doute en manque de fiction lorsqu'on a grandi dans une petite ville où il ne se passe pas grand-chose. Elle vit seule avec son paternel, William, éternel ado, qui lutte contre une sclérose en plaques. Incapable de se prendre en charge, il est dépendant de Lucie, qui entre le lycée, un travail dans un coffee shop, et les tâches du quotidien s'échappent du réel comme elle peut. L'écriture lui permet donc de s'extraire du réel, de naviguer constamment entre le rêve et la réalité. L'annonce de la visite d'une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Une assistante, en fait, c'est un assistant, vu qu'on s'attend toujours à une assistante, mais bon, là, il y a une petite surprise. Alors, Lucie et son père vont devoir redoubler d'inventivité pour donner l'illusion d'une vie normale.
Il n'y a aucune raison qu'on te place en foyer. Tu m'entends? Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc je sais très bien m'occuper de toi.
Papa, t'as les mains qui tremblent et t'arrives même plus à faire tes lacets. Faut qu'on ait l'air plus normaux.
Réalisateur du très fantaisiste Poisson Sexe, Olivier Babinet, continue à se frayer un chemin singulier au sein de la grande famille du cinéma français et en l'occurrence la comédie, genre le plus maltraité chez nous. Alors de son propre aveu, il souhaitait injecter une goutte de Miyazaki dans les frères Dardenne. Alors programme aussi ambitieux que contre nature, qui se révèle à l'écran payant parce que le merveilleux n'est jamais contaminé par la mièvrerie ou une esthétique un peu colorée à la Jeunet Carreau. L'univers fantasque débordant d'une inventivité discrète s'inscrit dans un contexte social et géographique crédible, défini par une temporalité élastique. En effet, le film mélange les époques sans en épouser réellement aucune, laissant propager l'idée que les problématiques demeurent intemporelles. En ce sens, Normal se situe dans la mouvance des néo-teen movies québécois que sont Charlotte à 17 ans de Sophie Lorrain et Jeune Juliette de Anne Aymon, que j'avais dû chroniquer à Cinérama d'ailleurs, entre rétro, doudou et lucidité très contemporaine. Alors l'influence prégnante des films cultes de John Hughes, réalisateur culte de La Folle Journée de Ferry Bueller notamment, est remise au goût du jour sans pour autant obéir à un cahier des charges encombrant. Alors quitte à surprendre en filmant un lycée avec une population pas très mélangée, assez blanche, et puis avec un milieu social assez aisé, moyen, c'est aussi une manière pour le cinéaste de raviver quelques souvenirs de sa jeunesse à travers des odeurs, des impressions, un ressenti palpable. Alors l'étrangeté de la mise en scène sert très bien le récit, riche en propositions iconoclastes, affichant un format, alors à nouveau un format carré, à contre-rebours de son utilisation conventionnelle dans le cinéma contemporain. En effet, ce format est généralement associé à des films quand même austères, contemplatifs, peu aimables, avec une vision du monde assez verticale. Or, dans Normal, le dispositif est au contraire synonyme de douceur, d'enfermer les personnages dans une forme de bulle de savon, retrouvant la fraîcheur de certaines des meilleures BD contemporaines, à commencer par celle de Daniel Clowes. Formidablement interprété aussi par un Benoît Poelvoorde, très sobre et émouvant, et par la jeune et pétillante Justine Lacroix, ce teen movie, plein de fraîcheur et de charme, parvient à réconcilier gentiment, puis en toute modestie, des cinémas plutôt opposés, l'un tenant de l'imaginaire et l'autre tenant plutôt du réalisme.
Normal d'Olivier Babinet est en salle depuis le 5 avril. Le livre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, a été adapté déjà une cinquantaine de fois au cinéma. Eh bien, voici une nouvelle adaptation qui mise sur l'humour et le casting, ai-je lu. C'est toi qui nous en parles, Guillaume, des Trois Mousquetaires d'Artagnan.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire.
Bon, je joindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire.
Le poids porté est très lourd et le défi est de taille. Le véritable mastodonte français de 2023, le voici. Alors n'en déplaise au dernier Astérix, objet tout sauf cinématographique, et dernier opus d'une série qui a perdu tout aura sur grand écran depuis ses débuts, Les Trois Mousquetaires est bel et bien le gros morceau de l'année proposé par Pathé, qui a l'ambition de réconcilier public français et grand spectacle de qualité. Alors pour rendre son rouleau compresseur imparable, Pathé joue carte sur table et dégaine ce que la littérature populaire française l'a vrai conte de plus fédérateur, virtuose et intemporel, et ce pour l'adapter en un gros film de deux parties. Qui n'a pas succombé au génie d'Alexandre Dumas, de sa plume étincelante et de son génie romanesque, arrête séance tenante d'écouter cette émission et se rue vers la librairie la plus proche. C'est une tare qu'il faut gommer au plus vite, sous peine de croire un seul instant que Guillaume Musso est un poète et que le sauveur du cinéma français serait le nombril de Guillaume Canet.
Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre?
Votre éminence.
Il est dit.
Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver.
La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur.
Tuez !
Et nous aurons la guerre.
Alexandre Dumas et le cinéma, c'est une longue et belle histoire d'amour qui dure depuis la naissance de ce dernier. On ne compte plus les adaptations diverses et variées de ses œuvres et on se délectera ou non de la fidélité de ces adaptations suivant la nationalité, la volonté et la démarche aussi des producteurs. L'important est que l'on rende à César ce qui appartient à César. Si Dumas a été et est toujours aussi populaire, c'est parce qu'il a su transformer des récits feuilletonesques en épopées d'aventure avec un grand A, conjuguer majesté de la langue française avec divertissement racé et haut de gamme et construire des intrigues parmi les plus riches et prenantes qui soient. Par exemple, si vous êtes producteur et que vous cherchez le scénario parfait, n'allez pas plus loin et adaptez Le Comte de Monte Cristo. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour faire un spectacle parfait. Bref, le choix stratégique de Pathé a été intelligent dans le sens où même si Les Trois Mousquetaires a donné de nombreux rejetons, il fédère toujours autant le grand public, y compris international, et une image française prestigieuse.
Qui est cet enfant ?
D'Artagnan, votre majesté.
Trois duels en 3 heures avec Trois Mousquetaires.
Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde.
Je vous trouve bien arrogant, jeune homme.
C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de sa majesté.
Donc oui, on peut répondre tout de suite à la question « Est-ce que ça marche toujours aujourd'hui ?» Oui, mais encore oui. On ne se lasse pas de cette histoire, ça va en mélange d'aventures, de récits initiatiques, d'intrigues de cour, de romantisme et romanesque typiquement français, et d'envolées lyriques entre deux combats et affrontements. Tout le panache et les subtilités vives et pétillantes de ce qui fait l'esprit français dans ce qu'il est à la fois de plus populaire et de plus noble se retrouve bien à l'écran. En cela, le spectateur a de fortes chances de ne pas être déçu, tant Pathé a su créer un véhicule accessible à tous, même s'il est sûr que le public visé est cette fois-ci assez jeune, celui-là même qui doute pas forcément à tort de la capacité du cinéma français à faire des films spectaculaires avec son patrimoine, rappelez-vous les films de Jean-Paul Salomé comme Belphégor, ou que la France puisse être une terre d'émotion. Alors il faut dire que des réussites éclatantes comme Au hasard, La Cité des Enfants Perdus, ou plus proche de notre film du jour, Le Pacte des Loups, d'ailleurs tous deux ressortis très récemment en copie 4K étourdissante, datent et n'avaient pas vraiment fait de petit depuis une vingtaine d'années, faisant oublier cette ambition possible et régulièrement tuée dans l'œuf dans l'Hexagone. Et bien sûr, ben, en choisissant Martin Bourboulon à la réalisation, ben, il ne fallait par contre ben, pas trop s'attendre à un film de la qualité des deux précités. Alors, le désormais Yes Man de Pathé, hein, qui avait signé pour le même studio un Eiffel de très sinistre mémoire il y a 2 ans, a certes amélioré sa mise en scène, mais reste encore beaucoup trop scolaire ou terre à terre ben, pour véritablement s'emparer du sujet, comme un Philippe de Broca ou un Jean-Paul Rapneau auraient pu le faire au temps de leur gloire.
Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît ? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule.
Retenez vos soldats, je retiendrai les miens.
Il est dit, des difficultés.
Mordez, enterré.
Alors il est sûr qu'on aurait adoré hein, voir le projet être confié à des cinéastes de la trempe hein, de Yann Gozlan ou Florent-Émile Ossiri, ou voir le rôle de Constance proposé à quelqu'un ben, d'un petit peu plus naturel que Lina Koudry par exemple, mais il serait franchement dommage hein, de bouder son plaisir, un plaisir évident hein, face à ce qui est quand même un spectacle très divertissant. Soulignons que c'est surtout la véritable naissance, pour moi en tout cas, de François Civil en héros de cinéma très crédible, attachant et solaire, lui qui justement avait fait ses gammes ben, devant la caméra de Yann Gozlan pour Burnout. Alors voilà, ben, il y a de quoi tout simplement attendre sereinement la seconde partie, Milady, prévue pour décembre, et qui est en général la partie la moins adaptée du roman. Alors qu'on se le dise, Dumas restera intemporel, et c'est ça le plus important. Et j'ai envie de rajouter aussi que, ben, avec Apache, qui est sorti la semaine dernière, il y a quand même 2 chouettes propositions de films français qui jouent avec l'histoire. Et alors, ce ne sera pas forcément du goût de tous, hein, mais ça vaut le coup de voir ça sur grand écran.
Et en tout cas, ça, c'est, bon, ça fait partie des grosses productions du moment. Les 3 mousquetaires d'Artagnan, c'est de cela dont nous parlions, un film en salle depuis le 5 avril. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Vincent Cassel.
This is Cinerama.
Alors, le but du jeu, eh bien, c'est de trouver 5 titres de films dont vous allez entendre les extraits. J'ajoute que j'ai mis quand même pas mal de temps. Hein. J'ai parcouru une bonne partie de la filmographie de Vincent Cassel. Et bien souvent, eh bien, j'avais du mal à trouver des dialogues un peu longs, un peu consistants. Voilà, ce qui n'empêche pas bien que Vincent Cassel est un acteur hein, qui joue très bien. Hein, mais bon, j'allais pas non plus mettre... l'extrait de La Haine, évidemment. Mais il y a quand même des choses qui vont sans doute être un peu faciles. Premier extrait de ce blind test.
À part moi, en fait, avant moi.
Mm-hmm.
T'as été qu'avec des mannequins ?
Non.
T'as été avec une fille normale, toi ?
Comment ça, normal ?
Bah, une fille comme moi, une fille normale.
Parce que toi, tu crois que t'es normale, toi ?
Oui, je suis normale.
Mais t'es pas normale du tout, toi ?
Si, mais tu vois, tu m'as compris...
Écoute, j'étais plus jeune, j'étais un peu con, j'avais envie de me mettre avec des filles belles parce que ça me rassurait, je me disais voilà, tu vois. Il y en a, c'est les voitures, moi c'était les jolies nanas, voilà, c'est tout. Bah, tu sais, on fait vite le tour. Hein. Regarde. Écoute-moi. Je préfère une comme toi.
Oui, je connais.
Que une samaritaine entière de celle-là.
Ah bon ?
Ouais.
Trouvé !
C'est Mon Roi ?
Oui, Mon Roi, réalisé par Mai Wen en 2015. Là, c'est Emmanuel Berco qui donne la réplique. Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Eh bien, là-bas, elle prend le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse qu'elle a vécue avec Giorgio. Et Giorgio, c'est Vincent Cassel. Et pendant cette période-là, elle a été soumise à une passion étouffante. 745 000 entrées en France et puis le prix d'interprétation féminine pour Emmanuel Berco au Festival de Cannes, et je dois dire que Vincent Cassel n'était pas mal non plus. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Vincent Cassel.
Spécial de quoi ? Vous êtes le seul à savoir que tu aurais pu venir plus tôt ce matin pour passer du temps avec nous ? Hein ? Non. T'as pas pensé à ça à l'aéroport ? Parce que tu me connais pas. Et qu'on n'a pas envie de partager des trucs avec des gens qu'on connaît pas. D'ailleurs, moi non plus, je te connais pas. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on s'est déjà connus, nous, de toute façon ? Non, je t'ai dit, je vais commencer comme ça. Comme ça, je vais bien commencer la conversation parce que tu sais pas très bien comment m'attraper. Hein ? Tu t'es dit, j'ai bien étudié, j'ai vécu, j'ai écrit, je saurais comment le prendre. C'est marrant, on dit souvent ça en parlant de moi, on dit, on sait pas comment le prendre, on sait pas comment l'attraper. Ah, Antoine, faut savoir le prendre. Hein. C'est comme on dirait ça de quelqu'un qu'on a envie de baiser ou un animal dans une cage, là, qu'on approche la main pour bien l'attraper avant de le noyer. C'est ça que t'as fait à l'aéroport, Louis.
Alors, tu m'as l'air très songeur, donc tu l'as peut-être pas vu. Alors, je vais donner quelques indices. Il est passé à Cannes. Ça a été le Grand Prix à Cannes en 2016. C'est un réalisateur québécois.
Ah, juste la fin du monde.
Oui, de Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, qui est dans la même voiture que Vincent Cassel dans cette séquence qui dure longtemps. Voilà, là, j'ai vraiment coupé. Là, pour le coup, il avait un vrai dialogue consistant. Il y a aussi dans ce film Nathalie Baye et Marion Cotillard. C'est adapté de la pièce de théâtre écrite par Jean-Luc Lagarce. Après 12 ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine, mais son arrivée fait ressurgir souvenirs et tensions familiales. Chacun exprime divers reproches, on en entend un. Et Louis repart sans avoir pu faire l'annonce de sa mort. À noter que c'est aussi un certain nombre de Césars, meilleure réalisation, meilleur montage, tout ça pour Xavier Dolan, et puis meilleur acteur quand même pour Gaspard Ulliel. Troisième extrait de ce blind test, donc, autour de la filmographie de Vincent Cassel.
Parce que j'aime pas les lois. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. Moi, je veux pas rêver ma vie. Je veux pas, chaque fois que je passe devant une vitrine, me dire « Tiens, il me faudrait 10 mois de boulot pour pouvoir me payer telle ou telle chose. » Non. Non, non, non.
Mais qu'est-ce que vous cherchez en vivant cette vie? La gloire? L'argent?
Quelle question! L'argent, 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 toujours l'argent, vous savez. On vit dans un monde d'exploiteurs. Mais moi, j'exploite personne. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, hein? Chercher l'argent où vous voulez, c'est-à-dire dans les banques.
Non, il y avait beaucoup d'indices là quand même, c'est trouvé.
Oui, c'était plutôt facile parce que c'est un des gros films de sa filmo là, pour le coup, très populaire, hein, c'est Nasrine.
Oui. Ennemi public numéro 1 de Jean-François Richet, sorti en 2008. Ça constitue le deuxième volet du diptyque Mesrine, après L'instinct de mort, sorti un mois avant. On y voit les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine, que les médias introniseront ennemi public numéro 1 et que toutes les polices de France traqueront sans répit jusqu'à sa mort. 1,5 million d'entrées en France. Et puis on parlait tout à l'heure du César pour Gaspard Ulliel, du meilleur acteur. Et bien là, cette fois-ci, c'était Vincent Cassel qui l'avait remporté à ce moment-là. Quatrième extrait de ce blind test.
Quel logiciel?
Alors ça, c'est drôle, j'ai oublié. C'était des logiciels... des logiciels normaux. Ou des logiciels allemands, peut-être.
Je crois que vous n'avez pas travaillé depuis 2 ans.
Hein? Bah... Ouais.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que j'étais à Fleury.
Fleury.
Oui, tu sais, Fleury, j'étais à la centrale, quoi.
À la centrale de quoi?
La centrale des particuliers. J'étais en taule, vous foutez de ma gueule ou quoi, là?
Alors, ça n'a pas été trouvé dans le studio, c'est un film de 2001... alors qu'il n'a pas réuni beaucoup de spectateurs, mais c'est quand même un grand réalisateur qui est aux commandes de ce film. Oui, tout à fait. Alors dès que j'ai dit grand réalisateur, voilà.
Oui, j'ai fait le calcul parce que c'est un très très bon film, ouais, mais c'est vrai qu'il a été complètement oublié, mais tu vois la preuve.
Ouais.
je l'ai pas revu depuis très longtemps et je crois d'ailleurs qu'il est invisible en Blu-ray, ce qui est triste quand même pour un bon film français.
C'est possible.
C'est peut-être pour ça.
En tout cas, là on entend hein, le son un peu étrange et bon, il y avait des dialogues quand même et surtout une relation avec Emmanuelle DeVos qui joue Carla et qui est malentendante. Elle est employée comme secrétaire dans une agence immobilière. Elle mène une vie solitaire et doit subir les humiliations de ses collègues. Et dans ce même temps, son employeur décide un jour de lui adjoindre un stagiaire. La NPE, à cette époque, lui envoie Paul, un ancien délinquant ayant fait de la prison. C'est Vincent Cassel. Et une histoire d'amour improbable doublée de manipulation réciproque va naître entre ces deux marginaux. César, encore de la meilleure actrice. Cette fois-ci, c'est pour Emmanuelle DeVos, et puis il y a eu aussi meilleur scénario et le meilleur son, très étonnamment pour ce film, mais bon, il est quand même question de quelqu'un qui lit sur les lèvres, mais contrairement finalement aux Oscars où on détermine le meilleur son et le meilleur mixage son, là, en France, on ne fait pas de différence entre une prise de son sur le tournage et un mixage son. Là, je pense qu'ils voulaient récompenser davantage le mixage son, mais ça n'a pas été fait comme ça, et je ne sais pas quand ça changera en France, peut-être jamais. Cinquième et dernier extrait de ce blind test.
Mais oh, oh, oh. Mais dis-moi, toi, tu viens pour ta sodomie?
Non. Non, pour un conseil.
L'un n'empêche pas l'autre.
J'ai été proclamé roi.
Et en plus, il parle, roi de quoi?
De l'île. L'île dans laquelle nous sommes, toi et moi.
Mais je ne suis pas dans une île. Mes semblables non plus. Nous sommes partout où les mythes décident que nous soyons.
Sont-ce les mythes qui ont décidé que tu me sodomises?
Non, ça c'est une initiative personnelle. Viens me gratter l'homoplate majesté, j'ai des puces, allez viens.
Alors, cette fois-ci, c'est Vincent Cassel dans une comédie. Hein.
Et c'est Sa Majesté Minor, donc de Jean-Jacques Haneau.
Oui, film sorti en 2007. C'est José Garcia qui lui donne la réplique dans une île perdue au milieu de la mer Égée. À l'époque où l'histoire se confond avec la mythologie, Minor, un individu mutique vivant avec son ami la truie dans une porcherie et la risée de ses concitoyens. Mais un jour, il découvre l'usage de la parole et son éloquence le propulse au statut de roi de l'île. Et Vincent Cassel, lui, joue le bouc qui est un satyre.
C'est un échec total pour
tout le monde.
Et je trouve que c'est profondément dommage, déjà parce que c'est un film de Jean-Jacques Haneau, donc ça forcément, c'est forcément de qualité. Et puis parce qu'il y avait une proposition assez géniale, justement d'humour dans un contexte un peu mythologique, ce qu'on ne fait pas trop en France. On fait beaucoup de films en costume, de comédies en costume, mais surtout très modernes, donc du coup le décalage n'était pas très, très bien employé. Et puis c'est le dernier film qu'il a fait avec son scénariste fétiche qui est mort pendant la confection du film. Donc c'est un peu triste que ça soit un gros bide pour ce film, parce que c'est un beau projet d'Haneau et c'est dommage que le public français n'ait pas suivi.
Eh oui, 139 000 entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève le blind test donc consacré à la filmographie de Vincent Cassel. Il ne fait pas bon être un chauffard sur les routes bretonnes quand une sérielle killeuse de la route veille au respect du code de la route, justement. C'est bonne conduite.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture ?
Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas.
Nous sommes dans le Finistère. Pauline Lorcalami est psychologue. Elle anime un stage de récupération des points du permis et elle a en face d'elle ceux qui grillent les stops, ne mettent pas leur ceinture ou font des excès de vitesse et certains qui admettent seulement être tête en l'air. Ça, c'est le jour. Mais la nuit, Pauline se transforme en justicière. Elle traque ceux qui ne veulent pas prendre conscience qu'ils sont des dangers publics. Pour circonstances atténuantes, elle cultive le décès de son compagnon mort dans un accident de la route. Ce qui donne l'occasion de rire, puisqu'elle lui parle à tout va, mettant des photos de lui dans la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher et même dans la voiture, comme s'il était encore le passager de cette voiture. Ainsi démarre le film de Jonathan Barré sur des airs de Revenge Movie. Mais passé cette introduction, on dérive vers l'enquête policière à la faveur d'un accident dont Pauline n'a pas eu tout le contrôle. Et c'est là qu'intervient Grégoire Ludig et David Marseille, le duo du Palmachot. L'un est capitaine de police quand l'autre est commandant, mais les deux ne brillent pas vraiment par leur flair ni leur sens aigu de l'enquête. Le plus gradé, Marseille, est du cru, un pur breton, quand Ludig vient de Narbonne, si bien que tout du long, on se coltine un accent du sud qui, comme par hasard, est associé au plus bonnet du duo. Alors il faudrait vraiment en finir avec ce stéréotype de l'accent associé à la bêtise, principalement dans la comédie, car il s'agit de rire de et pas avec.
Vous avez toujours été formatrice ?
À la base, je suis psychologue.
Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça.
Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Pas tous les jours facile.
Police judiciaire.
Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue ! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000.
Alors, autant dire qu'on connaît bien le coupable et qu'on voit bien que le duo de flics ne prend pas forcément le bon bout pour le trouver. Le film repose sur cet ingrédient d'une enquête qui fourmille d'ingrédients, mais qui n'avance pas. Les indices peuvent être visuels, gros comme une maison, ou sonores, comme quand ils ont la chance d'interroger une victime collatérale d'un accident quasiment entièrement brûlé.
Tu veux nous dire quelque chose ?
Ok. Pourquoi vous criez comme ça ? Il est brûlé, il est pas sourd.
Oui, Kylian, on est là, on t'écoute.
Il dit Kaiser Sosé. Mais non, pas du tout. Il a juste du mal à s'exprimer.
Kaiser Sosé.
Ah oui, il a dit Kaiser Sosé.
Alors, nous, spectateurs, on sait que ce n'est pas une référence au film de Bryan Singer avec Kevin Spacey, ce qui rend la situation encore plus drôle, évidemment. Alors, beaucoup de scènes sont construites ainsi, d'autant que Kaiser Sosé est un gimmick qui revient à plusieurs reprises quand le réalisateur n'en profite pas pour faire de la citation ouverte de film au gré des dialogues travaillés par l'absurde et l'humour potache.
Vous êtes cinéphile, chef ?
C'est vrai que j'aime bien me faire une petite toile de temps en temps.
Ah, moi, je suis fan de tout ce qui est film catastrophe. Volcano, Twister, Le Pic de Dante.
Oui. C'est bon.
Vous avez vu En pleine tempête ?
Non.
Mark Wahlberg, il est au sommet de son art, là.
On est là dans le pastiche du film policier. Pauline n'a au départ rien à craindre hein, de la police trop occupée à manquer des pistes, mais bien plus d'un trafiquant qui veut la faire chanter. La narration prend une autre tournure. On se retrouve avec des malfrats tout droit sortis de série Z, hein, les parfaits idiots qui vont rencontrer les excentriques. Au milieu, Pauline qui sauve sa peau et qui, depuis que le film a commencé, eh bien, a amorcé une mutation. Une séquence clé apportera une grande réponse à son deuil. Alors, ça sera le seul moment grave et inattendu du film qui prend les spectateurs par surprise alors qu'on n'y était pas du tout habitué. Alors, je parlais de la mauvaise habitude d'associer l'accent du Sud à la comédie. On note par ailleurs que le film est traversé par une prise de position post-MeToo. Les hommes véhiculent des préjugés sur les femmes et leurs réflexions volent bien bas. Alors, Pauline n'exécute que des chauffeurs masculins et l'on trouve un chef de malfrat queer. Voilà, donc le jeu de l'orcalémie est quant à lui, pour une rare fois, apaisé. C'est vraiment un sans faute. Et côté réalisation, eh bien, Jonathan Barré fait dans la sobriété le nerf des séquences reposant sur les dialogues et la situation.
Notre enquête prend une tournure, là. Je savais bien quand vous étiez moustillé comme ça, là.
Là, on avance.
Allez.
Bonne conduite est en salle depuis le 29 mars. Le réalisateur du biopic sur Laurel et Hardy nous raconte cette fois-ci l'histoire d'un jeu sur fond de thriller. C'est Tetris.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Le rétro gaming fait aujourd'hui fureur, hein, au point de désormais nourrir sa propre production cinématographique. Alors notons que le film que l'on chronique aujourd'hui, consacré à Tetris, sort à peine quelques jours avant l'un des gros blockbusters américains de l'année, l'adaptation de Super Mario Bros, lui prévu sur grand écran depuis le 5 avril. Ceci n'est pas étonnant, parce que si on consulte les chiffres, les recettes de l'industrie du jeu vidéo dépassent désormais de loin celles du cinéma. Il est donc plus surprenant que l'on essaie en continu d'adapter des œuvres vidéoludiques sur grand écran, même si les studios et les réalisateurs ne comprennent pas toujours ce qui fait l'intérêt d'un jeu vidéo, sa particularité et pourquoi certains choix sont d'emblée mauvais. Alors j'avais parlé l'année dernière de l'abominable adaptation d'Uncharted, l'un des chefs-d'œuvre du studio Naughty Dog. Ce genre de projet était par essence très compliqué car Uncharted s'inspirait de tout un pan du cinéma d'aventure. Les Indiana Jones en tête avaient une narration cinématographique idéalement conjuguée au moment interactif propre aux jeux vidéo et perdaient tout intérêt en simple version 2D. Il était condamné à mal reproduire ce qu'il avait transcendé dans son propre langage et média à lui. Alors pareil pour Tomb Raider, Double Dragon, Street Fighter, House of the Dead ou encore le Super Mario Bros. De 93. Ici, il ne sera heureusement pas question de cette régression car un film comme Tetris contourne le problème puisque ce n'est pas une mise en scène du jeu lui-même mais de son histoire. Et le seul obstacle, entre guillemets, c'est de rendre sexy une histoire qui pourrait ne pas forcément l'être. Par chance, et ce, même si Hollywood va mettre sa grosse patte dessus, les dessous de Tetris sont assez croquignolesques pour justifier un long métrage.
Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. J'ai joué à Tetris pendant à peine 5 minutes, mais je vois encore des blocs tomber dans mes rêves. C'est de la poésie, l'art et les maths collaborant dans une bouleversante harmonie. C'est le jeu parfait.
Tetris.
Tetris.
Tetris. Tetris.
Tetris. Pourquoi ce nom ?
Bienvenue dans un monde où les Russes sont très méchants et les Américains avides de faire du business en temps de guerre. Alors non, ce n'est pas 2023, mais bien les années 80. Alexis Pajitnov a le malheur d'être un programmateur de génie et d'inventer un petit jeu nommé Tetris, mais le malheur aussi d'être un génie dans l'URSS communiste pré-dislocation. Alors bien vite, sa particularité et son ingéniosité va attirer divers commerciaux américains qui vont voir le potentiel de la bête, mais rien ne va être simple dans un monde où les deux blocs qui s'affrontent vont jouer d'apparat de promesses, de ruses, de chance et de malchance pour tirer tout ce qui peut de l'autre. Tetris, plus que d'être un panégyrique à la gloire du mythe vidéoludique, choisit avant tout de jouer la carte du film d'espionnage décalé. Il est vrai que cette histoire est assez énorme et il est donc peu surprenant qu'Hollywood se la réapproprie pour surfer à la fois sur la vague bien actuelle du rétro gaming, de la nostalgie propre à toute une génération qui approche doucement de la quarantaine et aussi sur une formule cinématographique ayant fait plusieurs fois ses preuves, et dont l'un des représentants récents primés est le tout aussi inspiré de faits réels et édifiants, Argo de Ben Affleck. Dès lors, peu importe que la mise en scène tout à fait correcte se cache derrière des transitions pixelisées qui font plus office de gadget que de véritables notes d'intention, à l'image d'une course-poursuite semi-virtuelle un petit peu lunaire, et ne cherche pas plus que ça avoir une véritable identité au fond. Le film repose tout entier sur l'aspect énorme de son intrigue, ses rebondissements juridiques, et bien sûr par extension sur les épaules de ses acteurs, tous très très bons, à commencer par le rôle principal donné à Taron Egerton, qui fait honneur au Golden Globe obtenu pour son interprétation d'El Elton John dans le biopic Rocketman. Tetris est un divertissement sympathique qui saura assurément trouver son public. C'est clairement pas le chef-d'œuvre absolu qu'est Tetris le jeu, objet culturel qui méritait bien que le 7e art s'intéresse un jour à lui, mais suffisamment bien troussé pour que vous ayez envie de sortir vos Game Boy du placard et de siffloter la musique que vous n'avez sûrement pas oubliée.
Tetris, ce film, ne le cherchez pas en salle, il est sur Apple TV+.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, tu auras deux films.
Oui, je vais voir The Quiet Girl et puis Brighton Fourth.
Et moi, je vous reparlerai bien d'une comédie française et plutôt réussie, Les Complices. À la semaine prochaine.